depuis janvier, nous avons en gros consacré notre message chaque dimanche à un aspect particulier de la personne de Jésus. La semaine dernière, nous avons eu un message un peu spécial sur la dîme, mais aujourd'hui, nous revenons à la personne de Jésus. Et dans un mois environ, nous allons célébrer ensemble la résurrection de Jésus, le dimanche de Pâques. Et d'ici là, nous chercherons à approfondir, non pas juste notre compréhension de notre Seigneur et de sa résurrection, mais aussi notre amour pour lui. Et aujourd'hui, nous allons commencer à considérer le ministère de Jésus sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans, entre l'âge de 30 ans et 33 ans? Si son but ultime était d'aller à la croix et mourir pour nos péchés et d'être ressuscité pour vaincre la mort, il avait aussi des choses à faire avant cela. Sinon, il aurait pu aller directement de son baptême à sa mort. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a passé 3 ans allant de ville en ville. Mais faisons quoi, justement? Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 3 ans? J'ai dit et redit pendant notre série sur le livre des Actes que ce livre-là pourrait bien s'appeler les Actes de Jésus, tome 2, parce qu'il raconte ce que Jésus a accompli après son ascension au trône à travers son esprit. Et donc maintenant, nous revenons en arrière pour parler des Actes de Jésus, tome 1, ce qu'il a fait avant sa résurrection et avant son ascension à la droite de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas tout dire dans un seul message sur ce que Jésus a fait pendant son ministère, mais nous pouvons quand même voir un passage clé, et ça sera Luc chapitre 5. Et pour bien situer ce qu'on va voir et ce que Jésus faisait comme ministère, nous allons commencer en lisant quelques versets à la fin de Luc chapitre 4. Ce sont les versets 42 à 44. Quand il fit jour, Jésus sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, c'est pour cela que j'étais envoyé. Voilà le centre du ministère de Jésus sur terre. Annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et donc la question que j'aimerais poser avant de continuer, c'est la suivante. À quoi ressemble le règne de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Apparemment, Jésus va montrer par la suite. Mais avant de regarder, posons-nous la question. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand j'entends cette phrase « règne de Dieu » ou « royaume de Dieu » comme elle est traduite dans certaines traductions? Et là, juste une petite parenthèse concernant la traduction. J'utilise la Semeur ce matin qui prend le terme « règne » au lieu de « royaume » qui est plus traditionnel. Et je le prends parce que « royaume » peut donner l'impression qu'on parle d'un endroit spécifique et peut-être lointain. Alors que ce que nous voyons dans ce chapitre, c'est justement un roi en train d'annoncer et d'établir son règne partout où il va. Ce n'est pas une question d'un royaume lointain. On ne parle pas du ciel, on ne parle pas de l'avenir. C'est son règne ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que Jésus fait immédiatement après ces versets que nous avons lus à la fin du chapitre 4? Luc chapitre 5. La première chose qu'il fait est de commencer à construire un peuple. Ça, c'est une des réponses clés à la question que faisait Jésus pendant son ministère sur terre. Il construisait un nouveau peuple, un peuple qui serait l'Église. Et la façon dont il a construit ce peuple, comment il a appelé ses disciples, qui il a appelé et pourquoi, tout ça, on va aborder après Pâques. Pour le moment, donc, je signale tout simplement que la première chose que Jésus fait est de commencer à construire ce peuple en appelant les premiers disciples. « Suis-moi, » il leur dit, « suis-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » C'est en Luc 5, 1 à 11. Mais aujourd'hui, on va voir la suite. Qu'est-ce que Jésus fait avec ces hommes? Ces nouveaux disciples, pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres, comme il avait dit. Et là, donc, nous allons lire Luc 5, 12 à 26. Je ne l'ai pas mis sur l'écran, donc si vous avez une Bible, il va falloir l'ouvrir. Et si vous n'avez pas de Bible, il y en a au fond. Donc, quelqu'un pourrait vous donner une Bible. Luc 5, 12 à 26. Lisons ce passage en gardant à l'esprit le fait que Jésus vient de dire qu'il va annoncer son règne. Verset 12. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux. « Sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, « Va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis là et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est Jésus, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Prions avant de continuer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta puissance. Nous te remercions pour qui tu es, ce que nous voyons dans ce passage. Et nous prions que tu nous aides maintenant à te voir plus clairement. À te comprendre, à comprendre ton amour, ta grâce, ta puissance, ton autorité, tout ce que tu es, que tu te manifestes à nous ce matin, à travers ta parole et ton esprit. au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce passage, deux hommes très différents et plusieurs genres de guérison, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et on reviendra aux détails. Mais d'abord, la question que j'ai posée. À quoi ressemble le règne de Dieu comme Jésus l'annonce? Dans ce passage, nous lisons que Jésus enseignait, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il enseignait. Ben encore, parce qu'ici, dans ce chapitre, le règne de Dieu est annoncé tant par ce que Jésus fait, par la manifestation du pouvoir du Seigneur, que par ce qu'il dit. Tout ce que Jésus fait dans ce chapitre montre en fait ce qui se passe quand Dieu règne sur terre. Voici à quoi ressemble le règne de Dieu parmi nous. Et Jésus souligne bien le fait qu'il s'agit d'ici et de maintenant quand il dit au verset 24 « Que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est lui, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » En Jésus, le pouvoir de Dieu est arrivé sur terre. Et voici à quoi ça ressemble. Nous le voyons dans ce passage et j'aimerais considérer trois choses ce matin. Deux aspects du règne de Dieu sur terre, et puis un troisième plus brièvement. Commençons par l'homme couvert de lèpre. Comme peut-être vous le savez, la lèpre est une maladie de la peau qui est extrêmement transmissible. Certains types sont aussi extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que la lèpre rendait une personne impure. Dans cette culture-là, et aussi selon la loi de Moïse, parce qu'elle pourrait être très dangereuse pour la communauté. Et donc la personne affligée était exclue de la communauté. Elle vivait une vie de solitude à cause de son état malheureux. Et le contraste est frappant donc entre ce tableau que nous avons au début de ce passage et celui du paralytique qui vient juste après. Car le paralytique, il est entouré non pas juste de la foule, mais par ses propres amis. Ses amis qui l'amènent sur le toit de la maison et qui le descendent dans la maison devant Jésus. On peut bien imaginer la scène. Il y a ces gars en train de jeter des tuiles et de grogner lorsqu'ils passent leur ami à travers ce trou. Mais le lépreux, lui, il est seul. Il arrive seul devant Jésus. Il n'a aucun ami avec lui. Nous ne savons pas s'il y avait du monde avec Jésus à ce moment-là ou pas, mais si oui, il se serait sûrement écarté de cette personne impure et dangereuse. Il n'avait pas le droit de le toucher. Mais Jésus qui annonce et qui vit le règne de Dieu sur terre, par la puissance de l'Éternel, ce Jésus étend la main et le touche. Le premier contact humain qu'il aurait ressenti depuis des années et des années, c'est pas rien ça. C'est un geste symbolique très fort, bien sûr, mais c'est aussi quelque chose de très puissant en soi. Moi, je me souviens bien de ma première année à la fac. J'avais grandi en Pennsylvanie et maintenant je vivais seul à Chicago. Un trajet de 13 heures en voiture. Bon, enfin, je ne vivais pas seul. J'étais dans le logement universitaire, entouré de gens, mais quand même assez seul à 18 ans, sans ma famille. Surtout le premier semestre, ce qui voulait dire aucun toucher humain. Après 18 ans, d'au moins un câlin par jour de la part de ma maman. Et un peu moins du côté de mon papa et de mon frère. Mais quand même, maintenant, rien. Les scientifiques nous disent comment le toucher humain est important pour le bien-être. Et moi, là, je l'ai vécu. Je pense que je ne me suis même pas rendu compte au moment. Mais la première fois que je suis rentré pour les vacances, j'étais bouleversé par l'effet que ça a eu. L'effet d'être là avec ma famille, de recevoir cette affection après des mois de solitude. Jésus n'était pas obligé de toucher cet homme pour le guérir. Il aurait pu le faire par le simple pouvoir de sa parole, comme pour le serviteur de l'officier romain au chapitre 7. Et il avait en plus plein de raisons, humainement parlant, de ne pas le faire. Selon la loi, toucher cet homme aurait dû rendre Jésus lui-même impur et peut-être malade. Il aurait été logique donc que Jésus prononce la guérison sur cet homme en se tenant à l'écart. Mais non, il entend sa main et il touche. « Je le veux », il dit, « sois pur ». Et puis il envoie l'homme au prêtre. Pourquoi ? Il envoie au prêtre pour que le prêtre vérifie que cet homme était bien guéri, comme la loi l'exigeait, et qu'il puisse donc rejoindre la communauté. Certains d'entre nous arrivent seuls devant Jésus. Nous venons à lui sans amis, sans famille, portant notre honte tout seul. Et là, je ne parle pas juste au moment de notre conversion. Même après avoir été chrétien pendant des années et des années, nous pouvons nous trouver éloignés de nos proches. Nous pouvons nous ressentir coupés du monde et incapables de supporter seuls le fardeau, le poids de notre humanité brisée. Peut-être que nous nous sentons impurs et indignes, qu'il y a quelque chose en nous qui mérite cette séparation. Mais à ces moments-là, Jésus nous dit, peu importe, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de qui tu es, de qui tu étais, de ce qui s'est passé. Tu ne vas pas m'infecter. C'est moi qui te rendrai pur. Je n'ai pas peur de toi. Jésus n'a pas peur de ce lépreux en Luc 5. Il ne se tient pas à l'écart. Il le touche et en le touchant, il le rend pur. Et les résultats est que désormais, cet homme n'est plus seul. Non seulement a-t-il Jésus qui a osé le toucher, il a aussi ses autres relations restaurées. Le règne de Dieu sur terre dans notre vie peut enlever ce qui nous fait honte, ce qui nous sépare des autres. Il peut restaurer notre communion avec les autres si nous le laissons en nous, si nous le laissons nous purifier. C'est ça l'image que nous avons ici dans la première partie du passage. Un homme touché par le règne de Dieu, par le roi lui-même, et qui voit donc tout transformé. C'est ce que Jésus nous offre. Si nous nous approchons de lui par la foi qui nous amène à ses pieds, les pieds du roi. Alors, considérons le deuxième homme dans ce passage, qui arrive aux pieds du roi. Comme nous l'avons déjà dit, cet homme paralysé, il n'est pas seul. Tout au contraire, ce sont ses amis qui l'amènent à Jésus. On peut rêver d'avoir des amis comme ça. On peut rêver d'être une église comme ça, qui voit les besoins de gens autour de nous et qui fait tout pour que ces gens rencontrent Jésus. Même des choses osées, comme monter sur un toit pour le démonter devant tout le monde. Et nous allons dans ce sens, j'ai l'impression, cette assemblée. Nous allons dans ce sens. Nous voulons être une église comme ça. Une église qui fait des choses osées pour que les gens voient Jésus. Et ici, dans tous les cas, cet homme n'est pas seul. Il est entouré de ses amis fidèles. Mais évidemment, cela ne suffit pas. Il a besoin que ses amis l'amènent à Jésus. On ne sait pas exactement à quoi ils s'attendaient, mais on peut bien imaginer qu'ils voulaient simplement que leur ami soit guéri. Que cet homme qui n'arrive pas à marcher puissent se balader avec eux, puissent vivre une vie normale, puissent se soigner soi-même. Et quelque part, c'est normal. Quelqu'un dans la ville est en train de guérir, ben, on veut que notre ami soit guéri aussi. On va y aller. Mais quand cet homme arrive enfin devant Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne le guérit pas. Au moins, pas tout de suite. Jésus annonce que ses péchés sont pardonnés. Et c'est intéressant, nous n'entendons pas la réponse de l'homme. Peut-être qu'il n'a rien dit, mais il a sûrement réagi dans son esprit. Quelle était sa réaction? On ne sait pas. Mais quelle aurait été ta réaction? C'est ça la question qu'il faut poser. Quelle aurait été ma réaction? Peut-être cet homme, il a pensé à... Et alors, mes jambes quand même. Qu'est-ce que tu vas faire là? Parce que mes péchés, ben merci. Mais franchement, c'est les jambes qui m'embêtent. C'est ça la réponse de beaucoup de gens devant Jésus. Et soyons honnêtes, c'est souvent notre attitude aussi. Notre attitude envers Dieu. Ah, mes péchés, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu vas faire d'utile maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi maintenant? Nous sommes comme un enfant qui est nourri et lavé par son papa et qui, après 30 minutes de jouer ensemble avant de dormir, demande « Papa, pourquoi tu ne m'as pas acheté un iPhone? J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. » Je ne dis pas que ça s'est arrivé chez nous, mais on peut bien l'imaginer quand même. Nous sommes souvent comme ça devant Jésus. Mes péchés, merci. Mais quelque chose d'utile maintenant. Peut-être que ce n'était pas ça chez le paralytique. Peut-être que cet homme ne s'attendait pas à ce que Jésus pardonne ses péchés, mais dès que Jésus l'a dit, il a reconnu. Oui, ah, ça, c'est mon vrai besoin, mon besoin le plus profond. Et parfois, c'est ça qui nous arrive. Nous ne savons pas que nous avons ce besoin, mais nous voyons Jésus et nous nous rendons compte. Oui, c'est ça, mon besoin le plus profond. Peut-être que c'était ça pour cet homme, ou peut-être le pardon est exactement ce qu'il cherchait dès le début. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que les gens autour de lui le doutaient. Et peut-être qu'il le doutait aussi. Les pharisiens doutaient que Jésus ait le droit, qu'il ait le pouvoir de pardonner les péchés. Les pharisiens savaient bien que cet homme avait besoin d'être pardonné. Ils avaient raison. Et ils en étaient sûrs pour tout le monde, sauf eux-mêmes, il semble, parfois. Ils savaient aussi que ce n'est que Dieu qui peut vraiment pardonner nos péchés d'une manière qui les efface. Car finalement, tout péché est un péché contre Dieu. C'est intéressant, les pharisiens avaient bien raison sur certaines choses, mais ils avaient tort sur celle qui était la plus importante, la personne de Jésus. Ils doutaient que Jésus puisse faire ce qu'il disait faire, car ils ne reconnaissaient pas comme le roi qu'il était. Ils ne savaient pas à quoi ressemblait le règne de Dieu, le règne d'un Dieu qui oserait toucher un lépreux et qui pardonnerait les péchés à un paralytique qui descend à travers un trou dans le toit. Mais c'est exactement ce que Jésus est en train d'annoncer. Voici le règne de Dieu, un règne de grâce, un royaume de gens sauvés par la grâce et qui font preuve de cette grâce aux autres. Ce règne, donc, implique non seulement la restauration de nos relations les uns avec les autres, il restaure notre relation avec Dieu. C'est le deuxième point. La grâce du roi efface notre péché et restaure notre relation avec lui. Mais comme les pharisiens, je pense que très souvent, nous trouvons difficile de croire que ce pardon soit réel. Que cette phrase simple, « Tes péchés te sont pardonnés », s'applique vraiment à nous. Bien sûr, si nous sommes chrétiens, nous disons que nous le croyons. C'est la base de notre foi. Mais l'avons-nous vraiment saisi? Avons-nous vraiment saisi que Dieu nous pardonne pour toutes les choses, les grandes choses, les petites choses, les choses que nous voyons en nous-mêmes chaque jour qui ne vont pas? Les mauvaises attitudes que les autres ne voient pas, mais que nous voyons. Les faiblesses et les péchés qui minent le fruit de l'Esprit en nous. Avons-nous vraiment compris que par le sacrifice de Jésus, Dieu nous pardonne complètement, réellement, éternellement, malgré tout ça? Éternellement pardonné. On ne peut pas le saisir. Ce n'est pas toujours facile de comprendre cela. Parce que d'un côté, ce n'est pas facile parce que ça ne se voit pas. Au moins pas au niveau physique. Ce n'est pas comme le lépreux qui a la preuve sur la peau. Notre pardon est quelque chose qui est déclaré par Jésus lui-même, par son autorité, en tant que roi de cette terre et des cieux. Mais il faut avoir la foi pour l'entendre. Il faut la foi pour l'entendre. De l'autre côté, ce n'est pas facile à saisir cette réalité parce que notre ennemi, c'est Satan, l'accusateur. L'accusateur, c'est ça le sens de son nom dans l'Ancien Testament, accusateur. Et il cherche toujours à nous accuser, à nous faire douter de notre pardon. Ce n'est pas anodin. Il est agressif. Il cherche à nous faire douter notre pardon. Mais lisons ce que l'Apocalypse dit à ce sujet. Apocalypse 12, verset 10. Je vais lire. C'est l'apôtre Jean qui décrit la victoire que Jésus a gagnée par sa vie et sa mort et sa résurrection. Apocalypse 12, verset 10. Puis, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait: maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Vaincu.
Amen.
Amen. Vaincu. Votre accusateur a été vaincu, jeté hors du ciel. Maintenant, déjà à la croix, c'est fini. Et c'est exactement ce que Jésus fait dans ce chapitre. C'est une description, ce verset en Apocalypse, c'est une description de la vie et la mort et la résurrection de Jésus. Jésus manifeste la puissance de Dieu. Il instaure son règne. Il prit l'autorité en main. Et cet accusateur n'a plus le droit de nous accuser. Mais il essaie quand même. Et souvent, je trouve que nous le croyons. Nous le croyons, nous l'écoutons et nous le croyons. Peut-être pas consciemment, mais quand même, au fond de nous, beaucoup d'entre nous, manquent de la joie et de la confiance en lui, parce que nous restons plutôt dans la crainte et dans la culpabilité et dans la honte, qui ne sont plus les nôtres. Nous tenons à ces choses comme si Jésus n'avait pas le pouvoir de les effacer, comme s'il n'avait pas le pouvoir de détruire notre ennemi, notre accusateur. Mais croire comme ça, c'est de nous mettre aux côtés des pharisiens dans ce passage. Des gens qui doutaient l'autorité de Jésus. Et c'est pour ça que c'est tellement important que Jésus termine cet échange en donnant un signe visible de son identité, en guérissant le cœur du paralytique. Et ce signe n'est pas n'importe quel signe, c'est un signe que Jésus est vraiment le roi attendu par les Juifs depuis des siècles et des siècles. Le roi qui va tout restaurer. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, y compris notre cœur physique. C'est le roi attendu depuis des siècles qui allait faire ça et Jésus est en train de le faire. si le règne de Dieu restaure nos relations les uns avec les autres, et s'il restaure notre relation avec Dieu, et ainsi notre âme, il va aussi, un jour, tôt ou tard, restaurer toute la création, y compris notre corps. C'est le dernier point. Le règne du roi restaurera toute chose. Je sais que je cite ce verset beaucoup devant vous. Mais on ne peut pas, on ne doit pas sous-estimer l'importance de cette réalité. Jésus va renouveler toute chose. C'est pour ça qu'il dit lui-même en Apocalypse 21, verset 5, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Voici à quoi ressemble le règne de Dieu. Un règne qui renouvelle toutes choses, un règne qui est arrivé en Jésus et qui est toujours en train d'arriver par son esprit, maintenant. Un règne qui arrivera un jour de façon définitive avec le retour du roi. C'est ça le règne de Dieu. Un règne de grâce et d'autorité et de pardon et de restauration. Et pour terminer, donc, il faut se poser la question. Il ne faut pas sortir sans se poser la question. Comment participer à ce règne cette semaine, demain, cet après-midi? Comment vivre ce règne? La réponse, toute courte. C'est par la foi.
Amen, amen.
C'est la foi du lépreux qui l'a amené au pied de Jésus. Et c'est la foi du paralytique et de ses amis qui l'a amené sur ce toit et jusqu'à Jésus lui-même. Et donc, si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus, c'est le premier pas. Vous pouvez faire maintenant, tout de suite. Vous pouvez venir me voir, voir Jean-Serge après le culte. Mais c'est le premier pas. Tout commence là. Mais même nous qui avons déjà fait ce pas de foi, la réalité est que nous avons tous besoin de plus de ce règne dans notre vie. Car le règne de Dieu est partout où Jésus est reconnu comme roi. Mais dans notre propre vie, dans ma propre vie, nous avons très souvent des petits coins où Jésus ne règne pas. Parce que nous avons dit non, pas là. Pas cette habitude-là. Ça, c'est à moi. Ou pas cette attitude-là. C'est les habitudes qui sont plus difficiles parfois que les habitudes. Pas cette attitude-là. Parce que c'est pas la peine. Et franchement, je vois pas le mal. C'est juste une attitude au fond de moi. Personne ne le voit. Ou nous disons, je ne vais pas faire ça parce que c'est juste trop. C'est trop difficile. Je veux pas te suivre jusqu'à là. Je peux pas. Mais là, nous faisons mal à nous-mêmes. Nous nous privons de la vie abondante que Jésus nous offre. Parce que le règne de Dieu n'est pas un fardeau. Le règne de Dieu ressemble à un roi qui s'abaisse pour toucher un lépreux et qui le purifie. Le règne de Dieu ressemble à des amis qui portent un paralytique sur un toit parce qu'ils ont la foi que ce roi va pouvoir l'aider. Le règne de Dieu ressemble à un Dieu qui pardonne librement et qui renouvelle toute chose. C'est ça le règne de notre Dieu. Et pour vivre ce règne, il faut connaître le roi. Il faut accepter le roi. Il faut chercher ce roi et le suivre. C'est inutile de chercher le règne de Dieu sans chercher le roi lui-même. Cette semaine, laisse-le entrer pour que son règne touche chaque coin de ton être. Et qu'à travers toi, son règne touche chaque coin de la terre. Viens à lui. Si tu es seul, tu seras plus seul. Et puis, étends la main aux autres qui sont toujours seuls. ou laisse tes amis t'amènent à Jésus si tu en as besoin. Et puis trouve un ami qui en a besoin et amène-le à Jésus. Confesse tes péchés et laisse Jésus, le roi de toute la terre, te dire laisse-le te dire, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. C'est lui qui dit. Et puis, pardonne les autres. Voilà ce à quoi ressemble le règne de Dieu. Un règne qui renouvelle toutes choses. Relations, âme, la création entière. Et tout commence avec ce pardon. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Vivons ce pardon, vivons ce règne ensemble par la puissance de notre Seigneur cette semaine.